Calade, ma radio.
Allez, il est l'heure de la rubrique Reconnaître ses mots avec des mots. Et c'est avec Christelle Rest. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Ça va bien ?
Très bien, malgré la pluie.
La dernière fois qu'on s'est vu, on a parlé des liens d'attachement de façon un peu générale. Et
oui.
Aujourd'hui, je crois qu'on va s'intéresser à un lien en particulier.
Oui, aujourd'hui, je démarre ma petite série de chroniques sur le lien d'attachement. Et aujourd'hui, on va en aborder un. Alors, je ne vais pas vous dire tout de suite lequel. Je vais juste vous demander que, est-ce que vous savez que certains comportements que nous percevons comme de l'indépendance peuvent en réalité être des mécanismes de protection ? Et donc, ce style d'attachement, issu de nos premières relations, peut influencer durablement notre façon de créer des liens avec les autres. Donc, dans cette chronique, on va aborder le lien d'attachement évitant. Et ce que ça signifie, bien sûr, dans les relations, aussi bien en tant qu'enfant qu'adulte. Alors, avant tout, j'ai envie de rappeler que la théorie de l'attachement a été développée par John Bowlby. Il considère que le besoin d'établir un lien sécurisant avec une figure d'attachement est un besoin primaire, tout comme manger ou dormir. Bowlby a souligné que ces liens permettent de développer un sentiment de sécurité essentiel à l'épanouissement. Et donc, sa collaboratrice, Marie Wentworth, a approfondi justement ses travaux et a identifié différents styles d'attachement à travers son expérience de la situation qu'elle appelle étrange. Ces styles incluent l'attachement donc sécurisant, anxieux, désorganisé et évitant, tel que je les ai présentés la dernière fois.
Ouais. Alors, comment est-ce qu'on construit un lien d'attachement évitant ? Ça arrive comment ?
Alors, ce lien d'attachement évitant se développe souvent lorsque l'enfant grandit dans un environnement où ses besoins affectifs sont ignorés ou minimisés. Cela ne signifie pas que les parents n'aiment pas leur enfant, mais ils peuvent, par exemple, être très occupés ou stressés ou avoir d'autres enfants dont ils doivent s'occuper, donc ils ne sont pas disponibles pour l'enfant. Ils peuvent aussi, parce que justement ils sont très occupés, encourager une autonomie précoce ou par fantasme d'avoir un enfant qui est surdoué, bien l'encourager, donc lui demander une autonomie un petit peu trop vite, ou aussi parce que les parents eux-mêmes montrent très peu leurs émotions. Donc, ils sont distants.
Ouais, vous disiez que c'est un besoin naturel de créer des liens d'attachement. Est-ce que ça veut dire que le lien d'attachement d'évitement, c'est un besoin qui n'a pas été comblé
Un besoin d'attachement évitant, tout comme les autres besoins, se crée dans le cadre du lien à la personne qui va élever l'enfant, donc aux parents, très souvent, ou en tous les cas, celui qui va l'élever, qui le nourrit. Donc ce lien va se faire aussi en fonction du lien qu'a la représentation, on va dire, parentale.
Okay.
Donc ce qui veut dire que quand on a un parent qui est plutôt dans un lien évitant, on a de fortes chances que l'enfant soit dans un lien évitant également.
Okay.
Alors quand on a les deux parents, un évitant et un anxieux, ce qu'on retrouve assez souvent en modèle, l'enfant, en fonction de son tempérament, va être plus ou moins évitant ou anxieux.
Ok. Et alors, à quoi ça ressemble ? Comment ça se manifeste chez un enfant, quelqu'un qui aurait développé un lien d'attachement évitant ?
Alors, ça se manifeste de façon à ce que l'enfant va rechercher peu de contact en réalité. Il ne montre pas beaucoup ses signes de détresse lorsque ses parents, par exemple, s'éloignent. Et ça a vraiment été observé dans l'expérience de Marie Wentworth, qui observe que l'enfant se retrouve à côté de sa maman dans une pièce, la maman s'éloigne, l'enfant ne la regarde même pas. Ensuite, ça se manifeste aussi par une apparente indépendance. Il préfère souvent jouer seul que de solliciter un adulte pour partager une activité. Alors on part bien sûr quand l'enfant est vraiment tout petit. Et puis, il va peu manifester ses émotions, il va les minimiser un maximum. Si quelque chose éventuellement le bouleverse, il aura tendance à le cacher ou en tous les cas à dire que tout va bien, même si ce n'est pas le cas. Si par exemple on prend Nicolas qui a 7 ans, à qui on va refuser d'aller à un anniversaire, peu importe la raison, au lieu de pleurer ou de protester, il dira d'un ton neutre que c'est pas grave.
Ouais.
Voilà, donc il va minimiser, puis il va aller s'isoler dans sa chambre, et puis ses émotions vont se refouler. Donc le refoulement des émotions Ça sera un petit peu, ça fera partie de sa panoplie. Donc, et ce type de comportement peut être perçu par ses parents comme une maturité précoce.
Ah ouais.
Et donc, du coup, la projection rendue n'est peut-être pas forcément celle attendue.
Ah ouais.
Mais donc, l'enfant, lui, peut-être qu'il aurait besoin qu'on vienne vers lui. Mais en réalité, le parent va prendre ça peut-être pour une maturité.
Ah ouais. On se dit, c'est super, il pleure pas, il est pas...
Exactement, pas alors que c'est un mécanisme de protection qu'il a déjà mis en place.
Ok. Et alors, chez l'adulte, est-ce que ça évolue? Comment, à quoi ça ressemble?
Bah, ça évolue, bien entendu, puisque bon, bah, ce lien émotionnel, à moins que y ait, on va dire, quelque chose qui intervienne dans la vie de l'enfant, eh bien, ça va se traduire, en effet, par des adultes qui vont préférer des relations plus superficielles pour éviter de pas trop dépendre des autres.
Okay.
Hein, donc une forme d'indépendance, surtout ne pas dépendre de l'autre affectivement. On va avoir des adultes qui vont plutôt se replier sur eux-mêmes, préférer la solitude au lieu des relations trop demandeuses, trop exigeantes. Et puis surtout, s'apercevoir que quand un adulte est confronté à des conflits, ben, il va plutôt avoir tendance à les éviter.
Ouais.
Hein, donc, et en même temps, ce sont des adultes qui se disent qu'ils ne sont besoin de personne.
Mmh.
Ils y arrivent tout seuls. Ils sont heureux tout seuls.
Okay.
Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'entends souvent. Ah, oh, mais moi, j'ai besoin de personne. De toute façon, je vais y arriver. Hein.
Mmh.
Donc, parce que demander, c'est presque un acte de faiblesse. Ça peut être considéré comme ça, en tous les cas, pour l'enfant. Et puis, par exemple, bon, si on devait donner un... On voit ça souvent, d'ailleurs, dans les situations de couple. Hein, si, par exemple, je prenais l'exemple de Paul et Caroline.
Mmh.
Paul pourrait se trouver très mal à l'aise lorsque Caroline lui demande un petit peu trop d'affection à son goût. En tous les cas, va demander davantage d'intimité. Et du coup, Paul pourrait réagir en s'éloignant.
Ouais.
Et donc, en évitant des discussions trop profondes, en se concentrant exclusivement sur le travail ou sur ses loisirs. Donc, ça peut entraîner des frustrations chez Caroline, par exemple, qui peut ressentir ça comme un rejet.
Ouais.
Donc, vous voyez, ou un manque de connexion émotionnelle. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a souvent, d'ailleurs, des couples qui sont dans ce modèle-là, évitant et anxieux, et qui va donner donc des frustrations des deux côtés.
Ouais, pas très sain, du coup.
Non, donc le travail, comme je dis, bon, je l'aborderai un petit peu plus tard, mais bon, il y a des moyens de pouvoir réparer tout ça.
Ok. Est-ce qu'on peut rappeler les caractéristiques typiques, du coup, de ce lien d'attachement?
Donc, ce lien d'attachement se caractérise par des personnes donc, qui peuvent s'éloigner ou sembler froides, évitant ainsi des discussions trop émotionnelles, qu'elles préfèrent résoudre leurs problèmes seules, même dans des situations où elles auraient besoin de soutien. Donc, ce ne sont pas des personnes qui vont demander de l'aide facilement. Et également que ce soit dans leur vie personnelle ou professionnelle, elles montrent rarement leurs émotions. Et puis souvent, elles ont peur d'être dépendantes donc, ou vulnérables. Donc, elles vont vraiment montrer qu'elles peuvent se débrouiller toutes seules. Donc, si vous voulez, chaque attitude va renforcer l'initial qui est « je n'ai besoin de personne, de toute façon, il faut que je ne montre rien ».
Ouais. Et alors, est-ce qu'il y a des solutions pour réparer ce type de lien d'attachement?
Bien oui, il y a toujours des solutions. C'est ce que je dis tout le temps, c'est qu'il y a des solutions. Oui, il est possible d'évoluer vers un style beaucoup plus sécurisant, et heureusement. Donc, il y a des thérapies, hein, comme les TCC. Mais oui, bon, aujourd'hui, on sait qu'elles permettent de... Les thérapies comportementales et cognitives permettent quand même de résoudre pas mal de problèmes. Hein. Donc, et en effet, elles sont là, elles permettent de pouvoir explorer des mécanismes. Ce mécanisme-là, de permettre à la personne de connaître, en effet, comment elle fonctionne. Et donc, de pouvoir reconnaître là où elle s'aperçoit qu'elle peut être, on va dire, en difficulté face à l'autre, parce qu'il y a toujours le retour de l'autre, et apprendre à dire je suis triste, parce qu'elle apprendra déjà à reconnaître ses émotions, et puis surtout à prendre conscience qu'une émotion n'est pas un gros mot, n'est pas un défaut. Donc voilà, il y a plein d'exercices qui existent.
Très bien.
Et donc, j'ai envie de dire pour conclure que l'attachement évitant est un mécanisme adaptatif qui se développe dans l'enfance pour se protéger d'un environnement affectif insécurisant. Et ça, c'est hyper important, ne pas oublier ça. Et qu'à l'âge adulte, il peut limiter justement la capacité de cet individu à vivre des relations épanouies. Donc, comme je l'ai dit, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut réparer ça. Et maintenant, vous pouvez peut-être tout doucement, en rencontrant vos amis ou même des collègues de bureau, justement, peut-être reconnaître si quelqu'un semble distant. Ou ben, vous pouvez peut-être vous dire « Ah, ne serait-il pas évitant ?» C'est donc une façon de se protéger.
Ouais.
Voilà. Et pour vous conclure, j'ai envie de citer John Bowlby, qui est vraiment au centre de ce lien, et qui nous dit que ceux qui se détachent ne sont pas insensibles. Ils protègent simplement un cœur qui a appris à ne pas être entendu. Bonne route, les amis.
À méditer. Merci beaucoup, Christelle.
Merci, Mathieu.
À bientôt.
À bientôt.
Calade sur le 100.9 et radio-calade.fr.